Avoir raison avec Ayn Rand par Xavier Delaporte. Aujourd'hui, avoir 20 ans et lire Ayn Rand. Avoir raison avec Ayn Rand, cinquième et dernier épisode de notre série consacrée à cette écrivaine et penseuse née en 1905 en Russie, morte aux États-Unis en 1982. Ayn Rand est l'auteur de deux romans devenus des classiques aux États-Unis et d'autres textes, d'autres romans aussi, mais ces deux-là sont des classiques. La source vive et la grève, qui, plus sans doute que ses textes théoriques sur sa philosophie qu'elle appelait l'objectivisme, ont fait d'elle une figure essentielle du mouvement libertarien, défenseuse du capitalisme le plus libéral en tant qu'il permet, selon elle, à l'individu de s'épanouir pleinement, le plus égoïstement, comme elle le dit et l'écrit. Elle était aussi profondément antiraciste, profondément athée pour l'avortement, star des campus pendant sa vie, comme on l'a vu, sans cesse lue. Ses livres continuent de se vendre par dizaines de milliers chaque année. Elle a connu un regain d'influence post-mortem au début des années 2000, à la fois du fait du mouvement des Tea Party aux États-Unis, mais aussi parce qu'elle inspire la Silicon Valley et au-delà. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler dans ce dernier épisode, de la manière dont ses écrits continuent de vivre aujourd'hui avec des personnes que la lecture de Rand a affectées, pour le dire comme ça. Bonjour à tous les deux, Christophe Selzer et Mathilde Berger-Perrin.
Bonjour. Bonjour.
Alors, Christophe Selzer, vous êtes coordinateur national du mouvement Students for Liberty en France. Vous étiez étudiant il n'y a pas longtemps encore.
Tout à fait.
En quoi ?
Sciences politiques, j'ai fait une CAGNE aussi, donc philosophie, lettres, une BL avec des mathématiques auxquelles j'ai pas compris grand-chose parce que j'étais bachelier littéraire.
Et Mathilde Berger-Perrin, vous venez d'entrer dans la vie active ?
Tout juste, en réalité je suis en stage encore, mais j'étudie la philosophie à Normale Sup et la communication à la Sorbonne.
Et vous travaillez, enfin, vous avez fondé une association Women for Liberty.
Oui, alors sur la base de Students for Liberty, nous avons créé la branche en fait féminine de Students for Liberty qui s'appelle Women for Liberty, qui existe en Europe et à travers le monde, mais qui n'avait pas d'entité en France. Et donc on a décidé de la créer.
Et qu'est-ce que c'est alors ce grand mouvement de Students for Liberty ?
C'est un grand mouvement international qui est présent sur tous les continents. Il y a un certain nombre de groupes qui est né en 2008 aux États-Unis. Et pour la France, je m'occupe du développement depuis 2014. Alors, je suis président de Students for Liberty Paris, techniquement, depuis 2013, membre fondateur en 2012. Et c'est un peu un réseau, un peu comme une blockchain, puisque c'est un réseau décentré, techniquement. C'est-à-dire que ce sont que des associations de loi 1901 qui sont indépendantes les unes des autres. On a fait une libérale Sciences Po, une libérale Assas, donc dans des campus directement ou seulement dans des villes. Il y a une vingtaine de points géographiques en France. Et on travaille à diffuser les idées libérales et à les faire vivre.
Libérale ou libertarienne?
On va dire libéral-libertarien, c'est la même chose à mon sens. Si je prends un dénominateur commun, c'est vraiment l'idée que l'État et plus généralement les institutions politiques coercitives doivent le moins possible s'occuper des choix de vie des individus et de la vie économique. Donc pour moi, le libéralisme n'est pas économique, c'est une vision du droit et des institutions.
Alors, on y reviendra sans doute, mais comment est-ce que vous êtes tous les deux arrivés à Ayn Rand, Christophe Selzer?
Moi, c'est par un ami, Philippe Laurence, qui a monté l'association Students for Liberty Paris, précisément. Et c'est d'ailleurs par la lecture d'Ayn Rand que je suis arrivé au libéralisme, qui D'accord. pour moi me faisait peur même avant. Et j'y suis arrivé du coup sur des aspects très philosophiques ou très moraux finalement, et probablement par cette inversion des sens communément véhiculés par l'égoïsme ou par l'altruisme.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que quand je regarde notamment le personnage d'Howard Roark, qui est emblématique dans La Source Vive,
l'architecte.
Typiquement, c'est un jeune homme qui vit pour lui-même et qui du coup est beaucoup plus respectueux des autres. C'est quelqu'un qui déploie sa créativité, sa rationalité, qui ne cherche pas à l'imposer aux autres, ce qui est du coup est libéral, qui du coup ne dépend pas non plus des autres, et cherche à développer par notion contrat, enfin par un contrat tacite ou explicite des échanges avec d'autres personnes, parce que le libéralisme c'est pas des individus, il n'y a pas de société, c'est plutôt les individus volontairement avec d'autres individus forment des communautés par contrat et qui font la vie sociale.
Et donc c'est ça que
le fondement du libéralisme pour moi et que j'ai trouvé en fait à travers ce personnage archétypal et qui moi m'a énormément parlé parce qu'en revanche j'avais plus ou moins cette conception là.
Et c'est ça, quand vous parlez d'inversion, c'est ça, c'est-à-dire que tout à coup, c'est un gant retourné.
Ben d'une certaine façon, oui, parce que généralement, parce que je me suis toujours intéressé à la politique, que ce soit la droite, alors ça ne veut pas dire grand-chose la droite, mais le côté ordre moral de la droite ou le côté libertaire et dit altruiste de la gauche, en fait, sont dirigistes. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui, au prétexte, et je conteste pas leurs bonnes intentions, d'aider les pauvres ou de vouloir rendre les enfants bien comme il faut, vont décider que collectivement, tout le monde doit suivre un même schéma éducatif, va devoir suivre un système de redistribution à un niveau centralisé de l'État. Alors que non, pour faire de la sécurité sociale, on peut avoir des mutuelles, des coopératives ouvrières, et on n'a absolument pas besoin d'un système centralisé.
Et Mathilde Berger-Perrin, alors vous, la rencontre d'Ayn Rand, ça fait comment ?
Alors, bah, par Christophe, précisément. En revanche, moi, j'étais déjà venue au libéralisme avant, sur les questions politiques et économiques. Mais avec encore beaucoup de scepticisme, enfin, vraiment j'étais sceptique à l'égard de ces pensées-là, d'être aussi radicale que pouvaient l'être certains membres de Students for Liberty. Donc j'y étais, mais j'avais qu'un pied dedans. Et c'est en lisant Ayn Rand, en fait, que ça a été plutôt une confirmation. Mais là, beaucoup plus par rapport à sa conception de l'individu, de l'homme, en fait, se placer du côté des mœurs. Finalement, la vie politique et économique m'intéressait moins que la vie philosophique ou morale d'Ayn Rand. Et enfin, c'est sa conception de l'homme idéal, en fait, me donne envie, ou m'a donné envie en tout cas, de devenir ce type de personne, d'un individu libre, responsable.
Carrément.
Ah oui, vraiment. C'est... Je ne serais pas, je suis pas objectiviste en fait comme elle, donc c'est là où on va pas se rejoindre. Mais en tout cas, enfin du point de vue d'une étudiante, d'une jeune femme qui est en train en fait de devenir une femme, la lecture d'Ayn Rand, c'est précisément comme ça que je me suis vue grandir en fait.
Et comment, alors, par exemple, l'association que vous avez créée, vous diriez qu'elle émane intellectuellement de la lecture de Ayn Rand ?
Je me serais pas sentie de créer Women for Liberty avant la lecture d'Ayn Rand. En revanche, comme elle a confirmé en fait ma vision, mon engagement, mes ambitions.
Et sur quel principe, par exemple ? Expliquez-nous.
Sur quel principe ? C'est que en France, vous avez des figures féministes qui sont majoritairement à gauche. On n'a pas de féminisme de droite. Et quand on veut s'exprimer sur la femme à droite comme à gauche, je trouve qu'on tombe à côté, en fait. Et ce qui est intéressant chez Ayn Rand, c'est que elle, la femme, c'est une femme libre. En fait, c'est un individu rationnel avant d'être une femme. Et donc, dire... la femme libre, ça doit être ça, c'est une femme qui travaille, c'est une femme qui porte des jupes courtes, qui ne porte pas de jupe, qui ne met pas de talons, etc. Ou qui se plaint des hommes qui s'étendent dans le métro avec le fameux manspreading récemment, là. Ça, pour moi, c'est pas forcément une femme. En fait, une femme, elle est libre. Si elle veut rester au foyer, elle reste au foyer. Si elle veut travailler et qu'elle a de l'ambition, elle travaille. Mais à aucun moment, Ayn Rand ne va définir ce qu'est une femme. Et ces personnages féminins sont en fait ambitieux, mais toujours très variés. Et on va avoir une Dominique Francon dans La Source Vive qui fait des articles sur l'architecture alors qu'elle pourrait faire autre chose. Même elle reste chez elle, elle fait du jardinage. Enfin, je veux dire, il y a cette partie-là. Et à côté, vous allez avoir dans La Grève Dany Targart qui, elle, va être une ambitieuse qui va essayer de... Enfin, qui a la tête d'une des plus grandes boîtes des États-Unis dans le film. Enfin, pardon, dans le livre. Dans le film aussi, mais dans le livre. Et après, vous allez avoir dans Nous les Vivants, Kira, qui est une étudiante et qui n'a pas forcément les ambitions qu'on lui demande d'avoir.
Mais en fait, ce qui est quand même compliqué dans tout ça, c'est que, par exemple, le personnage de Dominique Francon, et si on prend l'aspect bisexuel, disons, de ces personnages féminins, c'est quand même très ambigu. Par exemple, la plupart des relations amoureuses commencent par des sortes de viols, quand même, d'une façon ou d'une autre. Enfin, il y a quand même quelque chose de très, très compliqué aussi dans la manière dont Ayn Rand constitue ses personnages féminins. Qu'est-ce que vous faites avec ça? J'ai, vous faites du féminisme avec Ayn Rand. Qu'est-ce que vous faites de ces aspects-là qui sont quand même compliqués et qui sont pas, qui sont déclinables sur d'autres aspects de la pensée de Ayn Rand?
Alors, déjà, je pense pas faire du féminisme avec Ayn Rand. En fait, j'utiliserai pas ce mot-là. Elle-même ne l'utilise pas. Elle se revendique absolument pas féministe. Disons que c'est un mot qu'on utilise pour, enfin, pour divulguer ses idées parce que c'est plus facile. Mais on n'appellera pas ça du féminisme, à moins de l'appeler liberal feminism et de se référer en fait à ce qui existe aux États-Unis. En revanche, alors la sexualité dans les livres d'Ayn Rand, surtout pour les femmes, moi c'est quelque chose qui m'a toujours dérangée en fait, parce que justement, souvent c'est violent, souvent c'est effectivement une sorte de réification à des corps que les femmes acceptent parfaitement d'être l'objet de, d'autres hommes, enfin vraiment, et elles le disent, et c'est le cas de Dany Taggart par exemple, mais... En y repensant, ça a ce côté choquant, violent et finalement rabaissant pour les femmes. Mais comme elles le veulent et elles le font volontairement, en fait, c'est l'acte le plus libre qu'elles puissent faire.
Ah oui, mais c'est compliqué comme pensée, ça.
C'est très compliqué, mais en fait, quand vous voyez la cohérence du récit dans chacun de ces livres et des personnages féminins, Dany ou Dominique Francon veulent être ça. Et à ce moment-là, c'est plus du sacrifice, c'est ce qu'explique Ayn Rand.
Donc l'avilissement, à partir du moment où il est volontairement consenti...
Exactement.
...relève pour vous d'une forme de liberté affirmée.
Complètement. En revanche, moi je continue de le dire, que quand je lis ce genre de passage, je suis dérangée parce que je trouve pas ça spontané. Mais c'est normal, parce que ce n'est pas spontané en fait, c'est rationnel.
Alors Christophe, c'est-à-dire, ouais. Même question, alors pas oui. Forcément sur l'aspect féministe, parce qu'il y a d'autres questions qui sont compliquées chez Ayn Rand, qui sont effectivement que poussées à son extrémité, et pas simplement dans ses romans, mais aussi dans sa philosophie, c'est peut-être plus frappant dans ses romans, parce que c'est incarné, parce que c'est des histoires, etc. Mais... Il y a des choses qui sont compliquées, qui sont très très difficiles à admettre. Qu'est-ce que vous faites de ça chez Ayn Rand, Christophe Tetzer?
Moi, ça me dérange pas du tout. C'est-à-dire que je me sens pas randien. Je sais pas si je suis objectiviste et je m'en préoccupe pas beaucoup. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce que j'ai tiré des personnages et des contextes. Moi, je sais pas, je peux peut-être rebondir sur la question. C'est un peu dommage. On en parle beaucoup, du coup, mais de la sexualité. Mais c'est, y a une notion de contrat. J'aime pas Fifty Shades of Grey, mais je trouve très intéressant parce que je trouve qu'il y a des ponts, justement, là-dessus. C'est le consentement. Et c'est la question de la coercition, en fait. Il n'y a pas d'intervention externe. C'est des personnages qui choisissent l'un et l'autre leur vie. Donc, quelque part, ça ne me regarde pas. Et c'est une matrice très importante, à mon sens, en matière morale. C'est la souveraineté de l'individu sur lui-même. Et en matière politique. Et on en tire, en fait, un fil conducteur institutionnel. Enfin, en tout cas, c'est tel que moi, je l'ai fait. Après, bon, comme on parlait de personnages féminins, c'est ce que je trouve fascinant dans La Source Vive, c'est vraiment celui-là avec lequel je suis arrivé à tout ça, c'est ce parallèle entre les deux architectes qu'on a, le duo. Il y a ce Howard Rohr qui est cet architecte extrêmement brillant techniquement, mais qui veut pas se conformer. À l'époque, c'est dans les années 30, donc il veut pas faire des petites frises néoclassiques sous des bâtiments en verre et en béton que lui, il conçoit dans son esprit. Et il se fait virer de la meilleure école, ou plus ou moins on le prie de bien vouloir rester, mais lui refuse. Et il dit, le diplôme, quelque part, c'est pas important. Moi, ça me fait penser aujourd'hui, ça fait écho à l'école 42, ça fait écho à plein d'univers maintenant professionnels et de compétences, où le diplôme, en fait, n'est qu'un bout de papier, mais vous pouvez valider votre compétence par votre réputation. Et on n'a pas besoin forcément, en matière d'éducation, de passer par un système institutionnel. Et c'est fascinant parce que ce personnage-là qui vit pour lui-même, qui prend son risque, qu'il assume, va quand même contractuellement trouver des gens avec qui il va pouvoir évoluer. Et vous avez en face cet autre architecte qui, lui, fait bien tout comme il faut, qui est le premier de la classe, qui n'est pas aussi brillant techniquement que le premier, qui va arriver dans le meilleur cabinet d'architecte et qui va s'avilir, alors que quelque part personne ne lui demandait, à faire ce que le client demande, à répondre à des impératifs et finalement à perdre toute notion de responsabilité, même d'estime de lui-même. Alors que soi-disant il est altruiste et qu'il joue le jeu du collectif et de la société et voilà du jeu où on se regarde les uns les autres. Il ne vit pas pour lui et donc il n'est pas capable du coup de considérer l'autre avec respect.
À vous entendre, on a l'impression que le monde devient randien. Parce que vous citez l'école 42, vous citez comme s'il y avait une sorte de réalisation contemporaine de ce que Rand décrivait. Ou est-ce que le monde est encore rétif à être aussi libertarien ou libéral, je ne sais pas comment vous diriez.
Moi, je pense que au contraire, en fait, on est très minoritaire, on se sent assez en lutte et enfin. On fait des ponts parce qu'en fait, quand on est libéral, libertarien et passionné de la liberté, on la voit partout où on veut la voir. Mais je trouve que le monde est encore assez hostile à ce genre de pensée.
Elle est où cette hostilité ? Où vous la voyez ?
Je pense qu'elle est quelque part culturelle en France, liée à notre modèle politique institutionnel et à un certain nombre de prémices qui sont admises par les uns et les autres et qui ne se sont pas rejugées d'une certaine façon. Et comme moi je suis libéral, en plus je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser ou je suis même pas là pour mettre en place un système théorique, même si je discute et que je diffuse des modèles théoriques, j'ai toujours envie de faire appel à un individu qui est en face de moi, je lui dis ce que je pense. Puis bah peut-être que ça l'inspirera, et puis peut-être que moi je vais tirer des choses de ce qu'il me dit. Mais pareil, on est sur cette notion d'égoïsme, c'est-à-dire que je vais écouter, parce que ça va peut-être avoir une influence, mais je suis responsable, moi, du choix que je fais de ce que j'entends. C'est d'ailleurs pour ça que je peux pas me qualifier de randien, moi, parce que je suis pas une rande comme une grande prêtresse, parce qu'il y a plein de choses qui me vont pas, et puis parce que je vis pour moi. Et parce que je vis pour moi, je fais aussi des choses pour les autres. Parce que comme la politique me passionne, je considère que développer un mouvement associatif, développer des idées, créer des opportunités, c'est quelque chose que je fais aussi pour les autres. Mais c'est un choix qui est individuel et dont je porte la responsabilité. Vous voyez, je fais un retournement inverse.
je comprends bien, ouais. Vous diriez la même chose, Mathilde Berger-Perrin ?
Alors oui, mais comme moi je vous le disais, c'est plutôt sur la vie personnelle ou les mœurs que je trouve Ayn Rand dérangeante et à la fois intéressante. C'est-à-dire que je trouve que l'hostilité vient aussi de la morale en fait. Ayn Rand retourne la morale, c'est-à-dire que pour elle, l'égoïsme rationnel, c'est le plus grand altruisme possible en fait. Et c'est
comment ça marche ça ?
Comment ça marche ? C'est-à-dire que si vous êtes un individu égoïste, rationnel et responsable, eh bien, vous allez pouvoir respecter l'autre, pouvoir vous donner à l'autre de manière donc contractuelle ou de manière amoureuse ou peu importe, de manière saine en fait, parce que vous n'allez créer aucune dépendance de l'un à l'autre, aucune interdépendance quelle qu'elle soit. Et finalement, ce qui va relever du concept de la charité ou de la bienveillance va vraiment être un acte totalement gratuit. Totalement gratuit.
Mais il y a quelque chose qui m'étonne là-dedans et qui me semble complètement justifié par la vie d'Ayn Rand elle-même, c'est que ça, ce sont des principes idéaux qui fonctionnent en dehors de tout contexte.
Non, non.
Pour moi, c'est le principe de l'être humain.
Mais elle-même l'a vécu. Regardez comment. Enfin, nous, on a raconté sa vie dans ces épisodes qui ont précédé. Et on sait très bien. C'est-à-dire qu'elle-même, donc, qui essayait d'être la plus randienne possible, si j'ose dire, elle a été complètement prisonnière de ses affects. Regardez par exemple la manière dont le courant objectiviste lui-même a subi le problème de la fin de son histoire d'amour avec un de ses épigones. Enfin, elle semble signifier par elle-même qu'il est impossible d'être à la hauteur de ses personnages. C'est elle-même qui le disait dans ces périodes un peu dépressives.
Mais parce qu'elle, elle dit qu'elle crée des idéaux, des personnages idéaux, c'est-à-dire un idéal vers lequel on peut tendre. Et elle est persuadée parce qu'elle est dans une conception intramondaine, complètement objectiviste des choses, que l'homme peut parvenir à ce niveau d'idéal. Mais à aucun moment, elle a prétendu l'être. Et ces personnages sont toujours en quête de l'être, à part éventuellement Howard Roark, qui est le plus fini de tous les personnages qu'elle ait pu faire et qui vraiment est l'homme idéal. Je pense pas que, enfin oui, dans sa vie amoureuse, même dans sa vie sociale, je veux dire, à la fin, elle a eu recours à la sécurité sociale américaine.
Oui, c'était quand même magnifique, donc, quoi. C'est-à-dire que contre la charité, contre l'État intervenant, etc., elle finit par prendre le nom de son mari pour pouvoir elle-même soigner son cancer avec. Voilà, ouais. Avec la mutualisation de...
Mais elle n'est pas contre la charité. Hein. Elle dit que la charité est une bonne chose à condition qu'elle soit totalement choisie volontaire. Et volontaire.
Christophe
Sinclair. Du coup, morale. Parce que, qu'est-ce qu'une charité si elle n'est pas décidée par celui qui l'exerce? Howard Roark, pour répondre à la question, c'est un personnage complètement archétypal. Et c'est pour cette raison que j'avais écrit avec un ami qui présidait Think Liberal Sciences Po, donc une des assos de notre réseau. On avait publié un petit papier pour mettre en parallèle le personnage de Gerd Wissler dans La vie des autres, Das Leben der anderen, qui est cet agent en ex-RDA qui est chargé d'espionner un homme de lettres et de théâtre, qui est extrêmement méticuleux, froid, rationnel, qui d'ailleurs n'est même pas désigné par son nom, c'est un matricule, et qui progressivement, à l'écoute de ce qui se passe dans la vie de l'appartement et de ce monde de culture, va progressivement s'humaniser. Et il le fait aussi en vertu de sa raison. Et vous voyez, c'est quelque part par l'empathie, en fait, qu'il arrive tout à coup à devenir, lui, quelqu'un qui va refuser, par exemple, de prendre de grandes responsabilités, puisque ça ne lui convient pas. Donc c'est un peu comme Howard Roark qui, parce qu'à un moment donné, dans son parcours, n'arrive pas à vivre de son travail et qui va aller tailler des pierres dans une carrière plutôt que d'aller dans un cabinet dans lequel il pourrait tout à fait aller parce qu'il a les compétences techniques. Il refuse des responsabilités ou une reconnaissance sociale en vertu de ses principes. Et après, en vertu de ses principes qu'il a cultivés, il développe des choses pour d'autres personnes d'une certaine façon. Il devient un élément de résistance morale, ne serait-ce que par sa pensée, par son développement personnel, qui apporte quelque chose aux autres.
À quel moment de vos vies vous pensez à Ayn Rand ? Vous repensez à des morceaux d'Ayn Rand que vous avez lus, comment ça agit sur vous ?
Ah, j'y repense assez souvent. Mais vous voyez, presque à concurrence des frères Karamazov, par exemple, mais sur l'analyse des êtres humains, c'est que souvent je reconnais... Vous voyez, si je regarde même Xavier Niel, je vais le dire comme ça, c'est quelque part le personnage d'un presse-tycoon qui, lui, comprend qu'il est égoïste et qui, peut-être, à certains égards, fait semblant d'être altruiste, tout en vivant aussi de connivence avec l'État et les pouvoirs publics. C'est le profil qui est entre les deux, entre du Howard Roark, si vous voulez, et du Peter Keating, qui, lui, se vautre sans en avoir même la conscience. Donc, vous voyez, j'ai des personnages randiens, parfois, qui me viennent quand j'observe une figure médiatique ici.
Mais par exemple, pour effectuer vos propres choix, c'est à ça que je pensais plutôt. Ouais.
Moi, pour le coup, c'est quelque chose d'assez important. Donc, que ce soit dans mes choix donc de travail, carrière, c'est important. C'est-à-dire que j'ai envie d'aller là où il y a de la place pour de la manœuvre, en fait, dans le travail, une marge de manœuvre.
La marge de manœuvre, c'est de la manœuvre au sens ouvrier du terme.
Non, j'entends au sens où un endroit où je sais que je vais avoir l'espace de penser, l'espace de proposer. Et l'espace de réaliser, ça c'est évident, et par moi-même, c'est-à-dire pas sous le joug d'une direction particulière, d'un angle ou d'une pensée propre à la maison dans laquelle je travaille. Ça, c'est très important pour moi. La seconde chose, c'est dans la vie privée. Moi, c'est là où elle m'a vraiment aidée à une rente.
Par exemple.
Quand je disais tout à l'heure que Ayn Rand, elle a fait le passage en fait de la jeune fille à la femme, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans les relations amoureuses notamment, quand vous sortez de relations adolescentes ou finalement quand vous avez 18, 20 ans, c'est une interdépendance où en fait on grandit ensemble pour pas affronter ce que c'est que d'être adulte. Eh bien, quand vous y mettez un terme ou quand vous vous relancez dans autre chose, la première chose à laquelle, en tout cas, j'ai fait attention, c'est d'être un individu responsable, plein, complètement indépendant et qui ne lie aucune dépendance, qu'elle soit affective ou autre, avec la personne avec laquelle elle est en couple ou avec ses amis ou avec etc. Enfin, c'est pour moi le cœur des relations.
Est-ce encore de l'amour ?
Alors, ça, c'est compliqué de le dire.
Ça vous regarde chacun d'entre vous.
C'est la réponse facile des libéraux.
Non, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces livres, justement, les femmes n'y parviennent pas. Ou pas du tout. Dans Nous, les vivants, Kira le dit à un moment qu'elle ne sait pas si elle arrive.
Son premier grand roman.
Voilà, Nous, les vivants. Elle ne sait pas si elle va parvenir à faire ça. Et à la fois. si dans la source vive ça fonctionne, mais Dominique Francon est rejetée la première fois par Howard Roark quand elle lui dit qu'elle est prête à tout abandonner pour lui. Lui, il n'en veut pas comme ça. Mmh. Il veut pas d'une femme dépendante.
J'ai du mal à. C'est quoi votre monde idéal à vous? Il fonctionne comment?
J'en ai pas,
Christophe Césaire.
J'en ai pas.
Mais vous pouvez pas vous en tirer comme ça.
Ben si, parce que je suis pas là pour imaginer. Parce que sinon, c'est purement théorique et c'est déconnecté de la vraie vie. Donc moi, mon modèle idéal, s'il faut quand même que j'y réponde, c'est ce que je fais tous les jours. C'est faire en sorte que j'ai quelqu'un qui aille sur Telegram, sur ProtonMail pour chiffrer ses mails, ses messages et de fait échapper à la censure gouvernementale ou vouloir échapper au GAFA. C'est quelqu'un qui va utiliser du Bitcoin parce qu'il est contre les banques centrales. Bah, il utilise une monnaie alternative qui existe, il peut le faire maintenant. C'est quelqu'un qui monte une association, c'est quelqu'un qui monte une start-up, c'est des gens dans nos réseaux qui se rencontrent et qui vont créer leur propre cheminement personnel à leur façon. Ça me satisfait, ces objectifs que j'essaie et que j'atteins mais tous les jours.
Ça fait un agrégat.
Mais c'est ça le truc, c'est que je suis pas constructiviste, je suis pas là en train de chercher à modéliser le monde. Je suis pas un démiurge, je suis pas un constructiviste, je suis un architecte quelque part à ma façon d'ailleurs.
Mais du coup, quel est le rôle là-dedans de l'homme ou de la femme politique? C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est le rôle même de l'État?
Je suis un homme politique
minimal
de ce point de vue-là. Non, mais parce que je fais des choses avec d'autres personnes, que je construis. À ma part, comment dire, sans plus, à ma part, je construis des organismes sociaux, des organisations sociales, des groupes, des communautés.
Alors donc, pour poser ma question différemment,
c'est vivre ensemble.
D'accord, ça je comprends bien, mais du coup, je vais poser ma question différemment. C'est quoi le rôle de l'État?
Ben, je ne sais pas, parce que l'État, c'est quoi le rôle d'une collectivité territoriale? Bon, évidemment, on pense à l'État là parce qu'il est omniprésent, et vous avez bien raison, je comprends que c'est effectivement l'objet de la contestation pour vous, mais on pourrait très bien imaginer d'avoir beaucoup plus d'autonomie fiscale ou réglementaire, avoir des collectivités. Après, ça va être la question de est-ce que la collectivité doit lever de l'impôt ou pas. Et ben, ça sera bien parce que ça sera beaucoup plus démocratique, les gens se la poseront au niveau local. Il y aura peut-être plus de chances de trouver des consensus ou d'avoir de la concurrence d'un ensemble politique à un autre. Si je prends un faisceau de thématique, alors ça le caractérise pas en termes de doctrine, mais voilà, je suis d'accord avec la fin de l'état d'urgence comme Poutou, je suis d'accord pour légaliser le cannabis, les drogues, je veux simplifier, aller plus loin sur les retraites que Macron, aller plus loin que sur le code du travail que Fillon. Donc vous voyez, par définition, gauche-droite ne veut rien dire de ce point de vue-là.
Et vous votez comment d'ailleurs?
Alors moi je vote, parce que c'est mon choix, je vote, je défends toujours les abstentionnistes parce que j'aime pas du tout qu'on leur jette la pierre, a fortiori quand en plus ils sont très actifs pour diffuser leurs idées, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, c'est une influence qui est considérable en tant que telle, qui est une responsabilité politique si on considère qu'elle est importante, et après moi, le vote ne regarde que moi.
Oh oui, je vous ai pas demandé ce que vous votez, j'ai dit vous votez comment.
Alors je vote en me disant d'un point de vue libéral il y a rien, absolument rien. De toute façon. Et puis après, je fais éventuellement deux, trois petites, mais c'est là que ça peut être contestable. Je fais mes petits éléments de stratégie en me disant, ça c'est intéressant, un peu comme tout le monde.
Macron n'est pas libéral.
Macron n'est pas, alors ça c'est la grande question, non, il n'est pas libéral, c'est-à-dire qu'il n'a pas été fort, il n'a pas une colonne vertébrale quelle qu'elle soit, parce qu'il y a beaucoup de nuances théoriques, de Hayek, en passant par Friedman, Rothbard, il s'est pas socialisé dans une fréquentation d'ouvrages, à notre connaissance, d'une école de pensée libérale, donc on ne peut pas dire que ce soit un libéral, et puis après beaucoup d'éléments programmatiques montrent qu'il ne l'est pas. En revanche, mais c'est là qu'il faut se méfier, mais il y a quelque chose d'intéressant dans la mesure où il est plus ouvert, entre guillemets, comme on dit, sur les questions de société, où effectivement il a l'air un peu moins dirigiste, mais ça dépend vraiment au cas par cas sur des questions d'ordre économique. C'est de la social-démocratie. Je sais pas ce que ça donne, vous voyez, c'est pas parce qu'on veut faire de l'État une start-up que ça reste pas socialiste profondément, même si on change dans la méthode.
Mathilde Berger-Perrin, sur cette question du vote, vous votez comment, vous?
De manière assez rationnelle, pour le coup, j'ai pris l'ensemble des programmes, j'ai listé les mesures qui me paraissaient réalisables et libérales, et j'ai voté là où il y avait la somme de mesures qui me paraissaient le plus libérales. Donc c'est pas, vraiment, c'est un choix par défaut, quoi. Non, je considère qu'aucun des candidats avait été libéral d'ailleurs.
Moi, je vote surtout quand je m'exprime et quand j'utilise Telegram.
merci beaucoup à tous les deux, Mathilde Berger-Perrin et Christophe Selzer. Je renvoie à vos associations Students for Liberty et Women for Liberty. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
C'était Avoir raison avec Ayn Rand, une série de Xavier Delaporte, prise de son Claire Levasseur et Benjamin Vignal, réalisation Guillaume Balbi.